Shalom tout le monde. Il est d'usage dans le peuple juif qu'à chaque fois qu'il y a une catastrophe, on fait un jeûne. Par exemple, destruction du temple, on fait le jeûne de Tisha B'Av. Et par exemple, pour le siège de Jérusalem fait par Nabucodonosor, eh bien, on fait également le jeûne du 10 du mois de Tevet. Il y a eu un débat après la Shoah. Disons que après les croisades et certaines persécutions qui avaient eu lieu en France au Moyen-Âge, alors il y a eu l'usage d'un jeûne supplémentaire le 20 du mois de Sivan, qui est en usage chez une partie des Ashkenazim. Et après la Shoah, alors il a été également question de savoir s'il ne fallait pas faire un jeûne pour mentionner, pour commémorer la Shoah. Alors il y a eu tout un débat houleux chez les rabbins, et donc pour ne fâcher personne, la Rabbanout Arachit a décidé de fixer le 10 du mois de Tevet comme un jour consacré à la Shoah, plus précisément comme ce qu'on appelle le Kaddish Aklali, le Kaddish collectif, la prière qu'on fait pour les défunts. Et alors toute personne qui a des proches qui sont morts dans la Shoah mais qui ne sait pas quel jour de l'année ça s'est passé, eh bien, le Kaddish se fait le 10 du mois de Tevet, d'où l'usage de parler de la Shoah à peu près à cette époque, ce qui n'est pas loin d'ailleurs du jour international de la Shoah qui a été fixé récemment. Il y a un jour international, oui, un Yom HaShoah international, à partir également dans le calendrier juif, quoi. Il y a le Yom HaShoah en Nissan, mais ça c'est encore autre chose. Donc c'est l'occasion de parler de ce que signifie la Shoah. La Shoah est une catastrophe, comme vous le savez, dans laquelle ont disparu 6 millions de nos frères, c'est-à-dire un tiers du peuple juif de l'époque. Et il faudrait étudier ce que ça signifie sur le plan, si vous voulez, de la réflexion juive, du point de vue de la tradition. Et alors il y a différentes approches. Il y a une approche qui consiste à dire que la Shoah ne signifie rien. Oui, je mentionne ça parce que ça, c'est une opinion qui est répandue, c'est celle du professeur Yeshayahu Leibovitch qui disait que la Shoah ne signifie rien, ça, c'est simplement un acte de violence, et la violence parfois est petite, parfois elle est grande, et là elle a été grande, voilà. Et donc, pour Leibovitch, l'histoire n'a pas de sens, ça fait partie de tout son système de pensée. Oui, alors pour le temple aussi. Il a des manières à lui de répondre à ces questions. Mais enfin, toujours est-il que c'est dans l'ensemble, on peut dire que c'est nul. C'est nul. C'est nul parce que, disons, si c'est vrai que l'histoire ne représente rien pour le judaïsme, alors le Tanakh n'est pas un livre juif puisqu'il parle d'histoire. Et vous savez qu'il y a une expression qui est connue comme ça dans la culture française, ce qu'on appelle l'histoire sainte. Vous connaissez ça ? Vous parlez de ça ? L'histoire sainte. L'histoire sainte est un terme chrétien, à l'origine, qui décrit les événements mentionnés dans différents livres, et on appelle ces événements-là l'histoire sainte. Alors, s'il y a une histoire sainte, ça suppose qu'il y a une histoire qui n'est pas sainte, ça veut dire profane, une histoire profane. Par exemple, les événements que nous vivons à l'époque moderne, du point de vue de ça, c'est l'histoire profane, c'est pas l'histoire sainte. La tradition juive voit exactement le contraire. Elle dit que ce que nous a révélé le Tanakh, c'est que l'histoire est sainte. C'est-à-dire que l'histoire, dans son ensemble, est porteuse de signification, que c'est à travers l'histoire qu'Akadosh Baruch Hu se révèle, et donc la Shoah a également quelque chose à nous dire. Oui. D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire, il écrit dans la Torah, Zechor yemot olam binu shenot dor vador, souviens-toi des jours antiques et l'entendement de chaque génération, des années de chaque génération. Donc on peut dire qu'il y a d'un certain point de vue une approche de l'étude de l'histoire qui inclut ça dans la Torah. Bon, pas n'importe quelle histoire, probablement que l'histoire de l'élevage des hannetons en Thaïlande du Nord au XIVe siècle ne fait pas partie de cela, bien que, à savoir. Bon, maintenant, pour revenir à nos moutons, donc la Shoah, en fait, certainement, est porteuse de signification. Alors là, il y a énormément de bêtises et d'énormités qui ont été dites autour de tout ça. Il y a un point qu'il faut élucider. Vous avez remarqué d'ailleurs que du point de vue du temps, il y a une proximité assez fascinante entre l'événement de la Shoah et la fondation de l'État d'Israël. La Shoah, ça s'est passé dans les années 40, 42-44 à peu près, c'est l'époque violente de la Shoah. Et l'État d'Israël a été fondé en 1948, c'est pas très loin l'un de l'autre. Et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a une corrélation entre les deux événements. Mais alors, est-ce que ce serait une relation de cause à effet? C'est par exemple, certains voient dans la Shoah la possibilité de fonder l'État d'Israël. Ce qui est assez catastrophique, parce que ça fonderait la légitimité de l'État d'Israël sur un événement contingent de l'histoire. C'est-à-dire, si il n'y avait pas eu la Shoah, alors il n'y aurait pas de légitimité à l'État d'Israël. Dans le discours d'ailleurs de nos ennemis, on entend souvent cette histoire. Les Juifs disent que parce qu'ils ont été persécutés, ils ont le droit à un État. Alors dans ce cas-là, il y en a d'autres qui ont souffert, les Palestiniens aussi, tout ça. N'est-ce pas ? En fait, c'est n'importe quoi. Et ça pose un problème parce que vous savez que tout chef d'État de quelque importance qui arrive en Israël fait une petite visite à Yad Vashem. À Yad Vashem, là-bas, il voit la Shoah. Et qu'est-ce qu'on veut lui dire à travers ça? On dit, voilà, il faut que tu comprennes, on existe parce qu'il y a eu la Shoah. En vérité, c'est totalement faux. Le sionisme a commencé bien avant la Shoah. L'idée du retour du peuple juif sur sa terre fait partie du message des prophètes. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec la Shoah. De plus, je voudrais faire une petite remarque. Il y a de nombreux textes dans la tradition qui parlent de l'État d'Israël, qui sera fondé un jour, c'est-à-dire du retour d'Israël sur sa terre. Et ces textes sont explicites. On n'a pas besoin de faire des recherches pour les trouver. Par contre, les textes qui parlent de la Shoah, il y en a, des textes qui ont parlé de la Shoah à l'avance, on en a toujours parlé à mots couverts. Ils n'ont jamais dit de manière très claire.
Cette Shoah ou...
Cette Shoah, non, celle-là. Ça, mais il y a une raison à cela, c'est que l'État d'Israël, c'est une promesse de Dieu. Donc ça ne pouvait pas ne pas arriver. C'est obligatoire, c'est une nécessité de l'histoire, puisqu'Akadosh Baruch Hu a promis qu'il y aurait ce retour. Par contre, la Shoah, il n'y a pas de promesse là-dessus. C'est-à-dire, c'est pas une nécessité. L'histoire aurait pu se passer sans Shoah. Mais elle a eu lieu quand même, et il faudrait savoir, est-ce qu'il n'y aurait quand même pas une règle de fonctionnement de l'histoire qui permet la possibilité de la Shoah, même si elle n'est pas nécessaire? Et c'est ça que je voudrais étudier avec vous. Quoi encore? Alors ça fait partie des questions que je voudrais étudier. Alors, même si tu ne lèves pas le doigt, j'ai l'intention d'en parler. Voilà. D'accord? Alors, je propose qu'on me laisse faire mon discours. Oui, toi. Je ne sais pas non plus. Je vais tout expliquer. Donc, tout va être clair. Voilà. Il y a des interprétations de la Shoah sur le plan religieux qui font intervenir ce qu'on appelle en hébreu Sahar Baonesh, la rétribution. C'est-à-dire, il y a une des règles de l'histoire, c'est que quand nous faisons le mal, nous sommes punis, quand nous faisons le bien, nous sommes récompensés. Et donc, étant donné que la Shoah est une catastrophe, c'est certainement que nous avons fait de gros péchés, et donc on méritait une grosse punition. Hein? Ça fait partie d'un... Il y a un discours comme ça. Un discours, d'ailleurs, qui en vérité est intolérable pour plusieurs raisons. Parce que ça voudrait dire que nous avons été vraiment le peuple le pire de la création, si on a eu un tel malheur. Or, on se rend bien compte que le peuple juif, d'abord, n'était pas si méchant que ça, et que les Allemands ont été beaucoup plus méchants, sans parler des Polonais, des Ukrainiens, des Français, des Norvégiens, tout ça, on pourrait faire la liste. Et donc, si déjà quelqu'un a mérité une catastrophe, c'est pas nous, mais c'est justement nos persécuteurs. De plus, la Shoah est une question de proportion. C'est-à-dire, elle correspondrait, si on parle d'une punition, elle correspondrait au plus grave péché qu'on pourrait même imaginer. C'est-à-dire même les pires des péchés ne seraient pas punis d'une telle chose. Donc, considérer la Shoah dans le cadre de la rétribution, c'est-à-dire la punition de quelque chose, ça ne tient pas la route. Alors, il y a une approche qui consiste à dire... Nous ne savons pas. Ça, c'est l'approche du Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi de Lubavitch dit, c'est un mystère. Ça fait partie des deux choses que je ne comprends pas, dit le Rabbi Lubavitch. Le Rabbi Lubavitch dit, il y a deux choses que je ne comprends pas. Les chassidim de Chabad disent, si le Rabbi a dit qu'il y a deux choses qu'il ne comprend pas, c'est-à-dire que tout le reste, il a compris. Pas mal, quand même. Bon. Alors, quelles sont les deux choses que le Rabbi Lubavitch disait ne pas comprendre? C'est l'un des deux, c'était la Shoah, et l'autre, c'est pourquoi est-ce que le Mashiach n'est pas encore venu. Enfin, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est le premier volet. Pourquoi donc il y a eu la Shoah? Le Rabbi Lubavitch dit, je ne sais pas. Il y a eu une autre opinion, qui était celle attaquée par le Rabbi Lubavitch, qui est que, étant donné que les Juifs ne sont pas très religieux, voilà, les Juifs ne sont pas religieux, ils mangent à Kippour, ils mangent du porc, et ils parlent pendant la répétition de la Hazara. Tout ça, ce sont des choses extrêmement graves, donc on peut comprendre qu'il y a une accumulation de rigueur de la Midat Hadin. Et d'ailleurs, les rabbins en question qui emploient ce discours disent « Bon, alors la Shoah, elle a réglé le compte, mais maintenant on a ouvert un nouveau compte. Alors il faut faire attention. Si on continue à manger à Kippour, manger du porc et parler pendant la Hazara, alors ça risque de se reproduire. » Oui, ça veut dire que le Créateur du monde entretient envers ses enfants une comptabilité extrêmement petite. Non, c'est pas le Rabbi Lubavitch. C'est d'autres, j'ai pas dit le nom, par respect pour le rabbin qui a dit ça. Ça voudrait dire que Dieu est un épicier qui a une liste de dettes, et quand la dette est trop lourde, eh ben, il envoie les huissiers. Voilà. Alors, évidemment, ça existe dans la Torah, cette considération. Mais il y a ici quelque chose qu'on ressent intuitivement comme étant beaucoup plus fort. Et donc, il faut comprendre ça autrement. Et alors ? Oui, mais ce n'est pas la Torah. La pensée commune, ce n'est pas encore de la Torah. Bon, alors, il y a une autre opinion de penseurs tels que Buber, par exemple, qui disait qu'il y a une éclipse. Bon, c'est n'importe quoi sur le plan théologique. C'est-à-dire qu'il y aurait une éclipse de Dieu. Dieu s'est caché à un moment. Il a disparu de la scène, quoi. Voilà. Alors, comme il a disparu de la scène, alors, ben voilà, la Shoah était possible. Voilà, c'est un moment d'oubli comme ça. Vous savez, il y a des absences. Parfois, on a des absences. Alors, il y a eu une éclipse. Hein? Je voilerai ma face. Il y a écrit dans Vayeler. Dans Vayeler. Oui. Alors, évidemment, il y a un voilement de la face dans la paracha de Vayeler. Effectivement. Comment ? Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce cachement de la face ? Est-ce que c'est simplement parce que Dieu aurait une faiblesse à ce moment-là ? Il était un peu occupé, comme ça, il était au... Je sais pas, il regardait la télé, alors donc il n'a pas eu le temps de... Alors, on parle de cachement de la face, il doit y avoir une logique du cachement de la face. Alors, il y a encore deux opinions, un peu plus intelligentes, mais enfin, qui, elles aussi, posent des problèmes. Il y a une opinion qui consiste à dire, la Shoah, c'est à cause du sionisme. C'est l'opinion du rabbi de Satmar. Voilà. Étant donné que nous avons transgressé la parole de Dieu qui nous a fait jurer de rester en exil et qu'on a pris l'initiative d'en sortir, eh bien, voilà, c'est bien fait pour nous, on n'avait qu'à pas faire le sionisme. Voilà, ça c'est l'opinion du rabbi de Satmar. Oui, bon. Alors, il y a une opinion inverse qui est... Je peux dire un mot ? Il y a une opinion dans l'autre sens, celle d'un rabbin de Hongrie qui a vécu à l'époque de la Shoah, qui d'ailleurs a été emporté par la Shoah, c'était le rabbin Taïrtal, dans son livre « Emma Banim Semecha ». Alors lui, il dit, la Shoah, c'est parce que on n'a pas été sioniste. C'est parce qu'on n'a pas répondu à l'appel de Herzl et des pionniers, etc. C'est pour ça qu'il y a eu la Shoah. Ça, c'est l'opinion du Rav Taïrtal. Vous avez remarqué que c'est l'opinion du Rav Taïrtal. Rav Shlomo Yisachar Taïrtal, dans Emma Banim Semecha, publié à Budapest en 1943. Il faut le faire. Bon. Oui. Quoi, les Satmar, quoi? Non, il était antisioniste, lui aussi. Non, mais enfin, c'était une mouvance proche, et puis après, il a changé d'avis. Voilà. David a écrit un livre très intéressant, d'ailleurs, là-dessus, le Banim Semecha, pour expliquer que c'est parce que nous n'avons pas fait le sionisme comme il fallait qu'il y a eu la Shoah. Voilà. Donc, chacun trouve qui accuser. D'accord ? Alors, d'autres vous disent, non, c'est parce qu'il y a eu l'assimilation. Pire que ça, certains vous diront que c'est parce qu'il y a eu la critique biblique. La critique biblique est apparue en Allemagne au XIXe siècle. Elle a été enseignée par des juifs. Et quand on dit à Kadosh, en quoi consiste la critique biblique, elle dit Ayesh Hashem bikirbenu im ayin, est-ce que Dieu est parmi nous ou est-ce qu'il n'est pas? Et alors c'est le moment où vient Amalek, n'est-ce pas? Donc Amalek, celui qui tente la destruction d'Israël, arrive quand on met en doute la présence de Dieu parmi nous. Or c'est ce que faisait la critique biblique. Voilà. Je vous ai donné toutes les théories à réfuter là, pour l'instant. D'accord? Donc il y a un dénominateur commun à toutes les théories qui ont été présentées jusqu'à présent, c'est qu'elles sont toutes fausses, bien qu'elles ont toutes, disons, un élément de vérité. Par exemple, Amalek apparaît là où on le laisse passer. N'est-ce pas? C'est vrai. Donc la critique biblique peut être pour quelque chose, pour expliquer pourquoi ça s'est apparu en Allemagne et pas ailleurs. Mais la raison de la Shoah ne peut pas être la critique biblique. Il doit y avoir autre chose. Surtout que pendant la Shoah, vous avez eu quand même plusieurs millions de tzadikim, dont 2 millions de bébés, qui ont été emportés. Donc, c'est difficile de réduire tout ça à un problème de sakhar va'onesh, de rétribution, punition, tout ça. Donc, il y a autre chose. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que la Shoah n'est pas obligatoire, mais elle est possible. Seulement, elle est possible à certains moments très précis de l'histoire et pas n'importe lesquels. La preuve, c'est que la Torah dit « Zachor et asher asa lecha Amalek »« Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek. » Pourquoi est-ce qu'il faut se souvenir de quelque chose? Parce que ça peut revenir. Mais dans ce cas-là, si c'est quelque chose de permanent, on n'a pas besoin de s'en souvenir. On a toujours des ennemis. Mais pour Amalek, ça apparaît à certains moments seulement de l'histoire et donc on risque de ne pas être préparé. Donc la Torah nous dit, étant donné qu'il faut être préparé, eh bien, étant donné que c'est quelque chose qui n'apparaît qu'à des situations extrêmement rares dans l'histoire, il faut que tu connaisses la règle, donc rappelle-toi de ce que tu as fait à Amalek. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il faut se rappeler? Eh bien, c'est en toute lettre dans la Torah. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Zachor et asher asa lecha Amalek. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Qu'est-ce qui vient juste après? Hein? Baderer. En chemin. Betsetrem et Mitzrayim, lorsque vous sortiez d'Égypte. Donc il y a ici une règle que nous donne la Torah, c'est qu'Amalek apparaît quand il est en chemin. Quand on est en chemin. Intéressant. Oui. Alors justement, c'est quoi le chemin? Alors ici, on doit voir un peu ce qui est écrit dans la Torah. Dans la Torah, on nous dit qu'avant, on était en Égypte. Et puis après, on était en chemin pour Eretz Israël. C'est-à-dire, on va d'Égypte à Jérusalem. Quand on est en Égypte, il est impossible qu'Amalek nous attaque. Parce que nous sommes protégés par l'esclavage. Nous sommes esclaves de Pharaon. Amalek ne va pas s'attaquer au Pharaon, ni aux esclaves du Pharaon. Ça fait partie de la propriété pharaonienne. Donc, Amalek ne peut rien contre nous lorsque nous sommes en Égypte. Quand nous sommes en Eretz Israël avec notre État, Jérusalem, notre temple, Amalek ne peut rien nous faire non plus. Nous sommes au faîte de notre puissance. Alors, quand est-ce qu'il peut nous attaquer? Au milieu. Lorsque nous sommes dans un tournant de l'histoire, lorsque nous passons d'un moment d'exil à un moment de retour, c'est là que ça peut se passer. Et ça s'est passé plusieurs fois dans l'histoire, parce qu'il y a eu plusieurs fois dans l'histoire des moments de retour. Je vais vous donner un exemple tout bête. L'histoire de Pourim. Vous connaissez l'histoire de Pourim? Hein? Ben, l'histoire de Pourim, ça se passe justement à un moment comme ça. Il y a un début de retour en Eretz Israël, il y a la déclaration de Koresh, le roi de Perse, qui autorise le retour, une partie des Hébreux reviennent en Eretz Israël, commencent à rétablir le temple de Jérusalem, mais la majorité reste encore à Babylone. Et c'est à ce moment-là que Ish Yehudi Haya Beshushan Abira, un homme juif se trouve à Shushan, la capitale, et c'est à ce moment-là qu'intervient Haman pour faire la Shoah. Haman invente la destruction, la solution finale, la destruction totale des Juifs. Maintenant, vous avez remarqué quelque chose d'intéressant, c'est que ça a été évité. C'est-à-dire, la Shoah est une catégorie possible, on risque d'être exposé à quelque chose, mais ça peut être évité. C'est-à-dire que ce n'est pas une nécessité. Quoi ? Oui, ça fait partie de la liste. Ça fait partie de la liste, oui. Oui, alors.
Alors que les Rêves qui étaient en Israël,
et alors
ils n'ont pas fait l'Israël des Juifs, c'était dans son pays qu'ils voulaient tuer. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas tuer tous les Juifs.
Je réponds à ta question. C'est quelque chose qui ne va pas avec Haman, parce qu'il y avait déjà des gens venir à Israël. Or, ils voulaient tuer tous les Juifs, mais comment ils pouvaient tuer seulement comment ils pouvaient tuer ceux qui sont en Eretz Israël, puisqu'ils voulaient tuer seulement ceux qui sont dans son pays. C'est ça ta question ? Réponse, n'importe quoi. Pour une raison très simple, c'est que Eretz Israël faisait partie de l'Empire perse aussi. Ah, voilà, bon. Oui. Hein ? Il y a eu un miracle avec Haman. Et vous, mais comment est-ce que le miracle a été possible ? Ça veut donc dire que la Shoah... Comment ? Un dévoilement de Dieu ? Pas vraiment, c'est plutôt une combine. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Il s'est passé que Esther a demandé que les Juifs de Shushan jeûnent pendant 3 jours. N'est-ce pas ? Et à partir de ce jeûne, elle a dit, puisque c'est comme ça, je vais pouvoir y aller. Et ça a marché. D'accord ? Il y a eu un regroupement des Juifs, un moment d'unité, qui fait que Esther avait la force de renverser Haman. Ça veut donc dire que pour éviter la Shoah, quand ça se passe de cette manière, il faut faire de l'unité. Intéressant. Parce que... Hein ? Oui, dans l'époque du nazisme, c'est ceux qui nous ont réunis, ce n'était pas nous. Ils ont amené des trains dans toute l'Europe pour nous réunir. D'accord ? Oui, bien sûr. Oui, mais également à l'époque de Shushan aussi, ils étaient dispersés à droite à gauche. Maintenant, pour revenir à ce que je disais, donc il y a également dans le retour de Yaakov en Eretz Israël, c'est-à-dire le premier retour d'exil de la première famille d'Israël, au moment d'entrer en Eretz Israël, il est angoissé. Et une angoisse, et il redoute d'être exterminé, lui et sa famille, par son frère Esav. Donc déjà, une première, disons, version de la Shoah apparaît à ce moment-là. Là aussi, c'est évité. Mais il est blessé. Il est blessé pendant la nuit par un homme qui est l'ange tutélaire d'Esav, qui lutte contre lui et qui le frappe à la hanche. C'est ça ? Et les Chachamim ont dit qu'il y a là-dedans une allusion à la génération de l'époque de Bar Kokhba, où nous avons été blessés à la hanche d'Israël par les Romains. À plus forte raison, la Shoah. N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une faiblesse d'Israël au moment du retour qui fait qu'on est en danger. De même lorsqu'on sort d'Égypte, de même lorsque l'on est à la veille de rétablir, d'établir un État indépendant à l'époque du roi David. C'est là que Shaoul devient le premier roi d'Israël et que pour éviter qu'il y ait un problème, le prophète Shmuel dit « Maintenant on va faire la guerre à Amalek. » C'est-à-dire que « Prends les devants. » De même lors du retour à l'époque du deuxième temple avec Haman et à l'époque du retour de nos jours avec Hitler. D'accord ? Donc on voit qu'il y a une sorte de catégorie permanente qui revient. Il y a un danger d'extermination à ce moment-là. Et vous voulez savoir, mais pourquoi ? Vas-y. Qui aurait pu empêcher la Shoah ? Oui, mais le Rafouk n'était pas vivant à l'époque de la Shoah. Avec qui parle ? Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est-à-dire, il est probable que la personne de qui on attendait de faire quelque chose a été paralysée ou quelque chose de ce genre. N'est-ce pas ? Comment ? Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas. Si tu veux, je peux te répondre encore une fois, mais je ne sais pas. Bon. Maintenant, j'aimerais comprendre c'est quoi cette exposition au danger. C'est-à-dire, c'est comme si on disait, voilà, fais gaffe, il y a un moment dangereux, tu peux le passer, mais attention. Alors, ça ne se comprend pas en termes donc de punition, c'est tout à fait autre chose. Il y a un texte dans la Torah, dans la paracha de Bechukotai. Dans Bechukotai, il y a là-bas les règles de l'histoire d'Israël. Entre autres, il y a un très long chapitre sur l'exil, sur les malheurs de l'exil. N'est-ce pas ? Et puis après, on nous dit, voilà, ben, ça ira très mal, et puis après, ça ira encore plus mal, et après, ça ira encore plus mal. Et puis, à la fin, vous reviendrez. Là, c'est écrit comme ça. Mais il y a un verset problématique dans tout ça. Voyons le verset problématique. Ve'af gamzot. De plus, je rajoute, c'est à la Torah que c'est quand je vous dis, voilà, j'ai encore un paragraphe à rajouter. Ve'af gamzot. Biyotam beretz oyvehem. Lorsqu'ils résideront dans le pays de leurs ennemis, l'homme astim, je ne les abandonne pas. Velo gealtim les chalotam, je ne les rejetterai pas au point de les détruire. Les affaires beriti itam, car ce serait transgresser mon alliance avec eux. Qui ani Hashem Elohim, car je reste l'Éternel leur Dieu. C'est-à-dire, il y a une promesse qui est faite que pendant tout le temps de l'exil, la Shoah ne sera pas possible. Parce qu'une des choses qu'on peut se demander, mais c'est, la question, c'est pas pourquoi est-ce que la Shoah a eu lieu, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu lieu plus tôt? Parce que quand on voit l'accumulation de haine que ont produit les goyim envers nous, entre autres dans la chrétienté, alors on se demande comment ça se fait qu'ils n'ont pas pensé plus tôt à exterminer les juifs. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre l'époque moderne pour que ce soit possible? C'est pas simplement pour des raisons technologiques. Oui. Qui a remis? Oui, bon, là, non, j'ai dit que toutes les opinions d'auparavant étaient fausses. Donc, c'est pas mon travail de non pas de les réfuter, au contraire, de les rétablir. Bon, maintenant, la Torah ici nous dit qu'il y a une promesse que pendant tout le temps de l'exil, il n'y aura pas de Shoah, parce que ça serait une transgression de l'Alliance. Oui ? Pendant la Shoah, il y a eu énormément de problèmes pendant l'exil. Hein. Il y a eu l'Inquisition, il y a eu les croisades, il y a eu des persécutions de toutes sortes. Mais il n'y a jamais eu une entreprise d'élimination du peuple juif. N'est-ce pas ? Même dans l'Inquisition, il y avait la possibilité soit de quitter l'Espagne, soit de se convertir au christianisme. Mais la destruction du peuple juif, ça a été inventé au XXe siècle. Il doit y avoir une raison à cela.
C'est pas au niveau de religion. Par exemple, c'est les chrétiens, c'est au niveau du christianisme.
Donc, ce que dit la Torah, c'est que la Shoah n'est pas possible pendant le temps de l'exil. Et remarquez ce que dit ici le texte. Il y a un verbe. Ve'af gamzot bihiyotam be'eretz oyvehem. Que veut dire le mot bihiyotam? Lorsqu'ils séjourneront. Plus précisément, tout le temps qu'ils doivent y être, je ne laisserai pas faire la Shoah. Ce qui suppose que quand finit le temps où on doit y être, la Shoah devient possible. Mais pourquoi ? Mais tout simplement parce que pendant le temps de l'exil, il y a une présence de la Shekhinah, une présence de Dieu parmi nous, qui fait que nous sommes protégés. Lors du retour, la Shekhinah, elle quitte l'Europe. Elle vient s'établir en Eretz Israël. Et dans le passage intermédiaire, danger. Vous avez compris ce qu'il dit là? Et dans ce danger-là, il y a une libération des forces du hasard, le Hefker. Quand il y a les forces du hasard, tout est possible. Oui.
Alors, est-ce que c'est vraiment... C'est la Shekhinah, elle
ben, y a un moment où il y a, disons, il y a un moment où Kadosh Baruch Hu décide, ça y est, c'est fini avec l'Europe, je reviens. Oui, exactement. C'est-à-dire, ça a commencé par une décision dans le Conseil suprême de la divinité dans le ciel, au début du 19e siècle. Kadosh Baruch Hu dit, voilà, Amahazir Shekhinato Letzion, je ramène ma Shekhina à Tzion. Et alors, ça a entraîné tout un mouvement. Tout un mouvement, dont le sionisme. N'est-ce pas ? D'ailleurs, il y a des questions qui se posent souvent. Les gens demandent pourquoi est-ce qu'ils ont fait leur aliyah. Alors, il y en a qui disent, voilà, je suis venu en Israël parce que je veux être à l'abri des dangers de l'exil. Ah bon ? Et les dangers ici aussi. Et d'autres disent, je veux donner une éducation juive à mes enfants. Ah bon ? Il y a une éducation juive très bonne également dans certaines écoles de Galoute. Nous dit, voilà, je suis venu ici pour faire la révolution prolétarienne. Ah bon, tu ne pouvais pas la faire en Russie? D'autres disent, je suis venu pour investir. Oui, mais on peut investir également à Singapour. Alors, quelle est la raison pour laquelle on est venu? Ben, on est venu parce qu'il fallait venir. C'est ça que ça veut dire. Mais comme on n'a pas l'habitude de ne pas donner de raison à ce qu'on fait, pour ne pas avoir l'air d'un fou, alors on donne des raisons et on fonde des partis politiques pour expliquer qu'on a raison de faire ce qu'on a. D'accord? Mais je voudrais vous donner ici un texte, peut-être pas très connu, mais très important, de Ramchal, qui parle de la Shoah. Ramchal, vous connaissez? Rabbi Moshe Chaim Lutzato, très célèbre par son livre Misilat Yesharim, qui est étudié dans les yeshivot. Mais Rabbi Moshe Chaim Lutzato a écrit 80 livres. Seulement quelque chose comme 44 sont arrivés à nous, les autres ont disparu. Mais enfin, un des 44 livres sont pour la plupart des livres de Kabbale. Un des 44 livres, c'est le livre Ma'amar HaGeoula. Le Ramchal a vécu au 18e siècle. D'accord ? La première moitié du 18e siècle. La Shoah était au XXe siècle, donc quelque chose comme 150 ans de différence entre le texte du Ramchal et la Shoah. Mais il a un petit livre qui s'appelle Ma'amar HaGeoula, c'est un essai, un travail sur la délivrance, et là-bas il parle de la Shoah. Il le dit de cette manière, je vais vous lire le texte. Il se trouve là. Ve'ata ashuv afaresh lecha, ma'yeh besof adevarim. Et maintenant, je vais t'expliciter ce qui se passera à la fin des choses. Be'agia et moed ketz, lorsque arrivera le moment de la fin, c'est le moment du retour. Ve'alze asod, et de ce secret-là, Amar adonenu Moshe Rabbeinu alav ha-shalom, notre maître Moshe, notre Maître a dit, Batsar lecha umtsaucha kol adevarim ha'ele. Lorsque tu seras dans la détresse, t'arriveront toutes ces choses-là. Fait David, et David également, Beistaklo beze azman, lorsqu'il a vu ce moment-là, Amar gamken, c'est-à-dire il a vu par l'Esprit Saint, par le Roi HaKodesh, il a dit, Lama Hashem ta'amod berachok. Pour toi, pourquoi, Éternel, te tiens-tu loin? Ta'alim li'itot batsara, tu te caches dans la détresse. Donc, le Ramchal nous dit, sache qu'au moment où ça arrivera, il va se passer quelque chose de terrible. Et il l'explique. Be'avenetev comprend cela bien. Da, sache. Kihine petach gadol aya niftach barishona al haaretz hakedosha. Sache qu'il y avait une grande ouverture, une grande porte, qui était ouverte, au-dessus de la terre sainte. Vehu ha-sha'ar, shemimenu yotzim kol ha-bracha v'chol ha-shalom berevach v'velo b'timtzum. C'est la porte par laquelle passait toute la bénédiction, toute la paix, avec abondance et sans restriction. C'est-à-dire, il fut une époque heureuse où nous étions sur notre terre, et il y avait une porte, un portail gigantesque qui était ouvert, qui faisait passer toute la bénédiction dans notre monde. V'chacher garmo avonot v'abayit akadosh harav. Et lorsque par nos péchés, le temple saint a été détruit, aznis gar acharazé, cette porte a été fermée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de bénédiction dans le monde. V'niftechu tartav chalonot ketanim, mais à sa place ont été ouvertes des petites fenêtres. Windows. C'est-à-dire, il y a des petites fenêtres qui alimentent le monde. Des lucarnes. Ve'ahemet, ki chalonot ha'elem, même shalot ktanot, même shalot ha'char meod. Il faut savoir que ces lucarnes ont une domination beaucoup plus faible que la domination de la porte. Ve'alehem ne'emar, il est dit de cela, mashgiach mina chalonot, metzit mina charakim. Il observe par les fenêtres, il entrevoit par les fentes. Ve'ine achalonot ha'ele me'az niftechu, depuis que ces fenêtres ont été ouvertes, nitan la'em chok ugvul la'amod petuchim kol yemei agalut velo yisagru penichera va'olam rega echad. Il a été décidé que ces fenêtres seraient ouvertes en permanence afin que le monde ne soit pas détruit. Ve'cha'asher tavo geulatenu b'mira b'yamenu, et lorsque s'approchera notre délivrance bientôt et de nos jours, inei patach ha'shar ha'sagur shenit. La porte s'ouvrira à nouveau. Ve'chalonot lo yizacheru, et les fenêtres ne seront plus dans la mémoire. Ve'ahemet ikvar kalu peulatam balchulem, parce que les fenêtres ont fini leur rôle. Ochvar ne'emar dabar echad lador velo shne dabarim lador. Or, on sait bien qu'il ne peut y avoir qu'un seul chef pour la génération et pas deux chefs pour la génération. Ve'alken bevo memshelet ha'shar. C'est pourquoi, lorsque viendra le moment de la domination de la porte, lota amod memshelet achalonot klal. Là, le gouvernement des fenêtres ne tiendra plus. Vesodainian, ainsi qu'il est dit, en malchut nogad b'chaverta afilu kimlo nima. Un empire ne touche pas d'un cheveu l'empire d'un autre. Venimtsa shekshiyagi azman hageoula. Et c'est donc quand arrivera le moment de la délivrance. Yatri lachar vit orer li pateach. La porte s'éveillera pour s'ouvrir. C'est-à-dire la porte est endormie. Elle se réveille. Ou vit orero yizrach or gadol de chachalonot atzmam. Et lorsqu'il se réveillera, une grande lumière apparaîtra à travers les fenêtres elles-mêmes. C'est-à-dire, il y a une ouverture du portail et les fenêtres commencent à illuminer plus fort. Ou meoto ayom ve'ala yashar oler venivna b'chol pratav. Et le portail ira en se construisant et les fenêtres iront en se fermant. Venimta shashar yenivne avalemala velo noda mimenu lemata atom shet achalonot kasher nitan laim barishona. Bon, je saute là. Ve'aven me'od comprend cela. Ki advarim atzumim u'mushrashim b'imkei ha'chokhma. Car ces choses sont puissantes et enracinées dans la profondeur de la sagesse. Ve'alken ha'or yeholech u'marchich. La lumière ira en s'obscurcissant. Ki achalomot nistamim. Car les fenêtres vont en se fermant. Ve'or ha'char lo nigla. Mais la lumière du portail n'est pas encore révélée. Il viendra un moment où toutes les fenêtres seront fermées. Va-t-il galer miyad p'tichat ha'shar, et la porte s'ouvrira tout de suite. Venimtsa shen ben zeh lezeh klum, ela zeh nichnas vezeh yotzeh. Donc il n'y a aucun écart entre les deux, parce que sinon le monde serait détruit. Achim kol zeh, mais malgré tout, kevan shekvar yagiu achalonot listima azot niret pulatam lemata. Comme les fenêtres arriveront à être fermées, ça sera ressenti en bas. Vei et hachecha gedola, ça sera un moment de grande obscurité. Vei lota amod armé, mais qui ne sera pas très long. Ki ptichat achar titrazek piashuv aor chazak mivarishona, car là, finalement la porte ira en s'ouvrant. Donc vous voyez que les fenêtres se ferment de plus en plus, jusqu'à la fermeture de la dernière fenêtre, et alors il y a une catastrophe, mais tout de suite après, la porte s'ouvre. Eh bien les fenêtres, c'est ce qui permet au peuple juif de tenir le coup pendant l'exil. Alors il y a des institutions, il y a des communautés, il y a des rabbins, il y a le fait que nos prières sont exaucées. tout cela, ça se passe. Mais vient un moment où ça s'arrête. Ça s'arrête pour très peu de temps, mais ça s'arrête. Et puis, après, ça recommence. La lumière apparaît, et alors là, vous avez l'état d'Israël, tout va très bien. D'accord ? Et c'est pour ça que le roi David a dit « Lama Hashem ta'amod berachok, pourquoi Dieu te tiens-tu de loin ?» Donc vous voyez qu'il y a ici un rabbin, il y a déjà deux siècles, qui nous parle de ce processus. Oui ? Non. Ça veut dire que la Shoah est évitable, justement. Mais qu'il y a un moment de danger. Si on n'est pas au bon endroit au moment où ça se passe, alors on risque d'être emporté. N'est-ce pas ? Et je voudrais ici vous citer un deuxième texte intéressant. Encore deux petits textes. Hein ? Deux petits textes. Ça, c'était un texte assez long. Mais deux petits textes. L'un du livre de Daniel, dans le Tanakh, et l'autre du Gaon de Vilna. Dans le livre de Daniel, j'ai imprimé ça aussi. C'est, ça, c'est un fascicule que j'ai écrit sur la Shoah en son temps. Alors, j'ai amené plusieurs textes, dont le texte suivant. C'est au chapitre 12, verset 1. « Uvaetahi, en ce temps-là, Ya'amod Michael se lèvera Michael. » Qui c'est Michael ?« Asar Agadol, le grand prince, Ha'omed al-Bene Amecha, qui veille sur les fils de ton peuple. Ve'aita et tsara, il y aura un moment de malheur. Asher loni yeta, comme il n'y en a pas eu. Miyot goy, depuis qu'existent des peuples, adahetahi, jusqu'à ce moment-là. Uvaetahi, et à ce moment-là, yimmalet amecha, ton peuple sera rescapé. Kol animtsa katuv basefer, en tout cas, tous ceux qui sont écrits dans le livre. Bon, parole pas très claire. C'est-à-dire, on voit qu'il y a une catastrophe à la fin de l'histoire, mais c'est justement au moment du retour, et à ce moment-là, il y en a qui seront rescapés, qui ? Ben, ce sont ceux qui sont écrits dans le livre. Ah bon ? C'est quoi ceux qui sont écrits dans le livre ? Ben, c'est écrit en toutes lettres, dans le livre de... dans le livre de Isaïe, chapitre 4, au verset 13. Qu'est-ce qu'il dit Isaïe, au chapitre 4, au verset 13 ? Il dit « Ve'aya anishar b'tzion, ve'anotar b'irushalayim, ceux qui resteront à Tzion, le résidu qui sera à Jérusalem, kadosh yamerlo, il sera de lui, tu es saint. Kol akatuv lechaim, tous ceux qui sont écrits pour la vie, b'irushalayim seront à Jérusalem. » C'est Yeshayahu 4, 13. D'accord ? Et dans Ovadia aussi, vous avez un verset « Uvehar Tzion tiye peleta vehaya kodesh » Dans la montagne de Sion, il y aura des rescapés, ça sera un lieu saint. C'est-à-dire, nous avons déjà une promesse dans Parashat Hazit, nous déjà. Moshe Rabbeinu nous dit « Michutz teshakel cherev » À l'extérieur, il y aura l'épée désenfantera, ou mehadarim, ema, mais dans les chambres, il n'y aura que la terreur. C'est quoi l'extérieur ? L'extérieur, c'est Chutz La'aretz. Hadarim, l'intérieur, c'est Eretz Israël. Mais là, je voudrais. Ça, c'est le premier texte, il était assez petit cette fois-ci. Un deuxième du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna a envoyé ses élèves en Eretz Israël au début du XIXe siècle, et il y avait des entretiens entre lui et quelques-uns de ses élèves sur le processus de la Géoula. Et ces élèves-là ont transmis en manuscrit les enseignements de leur maître dans un livre appelé « Kol HaTor »,« La voie de la tourterelle ». Ce livre était un livre secret qui était transmis de génération en génération dans les familles des élèves du Gaon de Vilna à Jérusalem et qui a été publié, il y a quelque chose comme déjà 40 ans, par le Rav Menachem Mendel Kasher, et dans lequel nous avons le récit des entretiens du Gaon de Vilna avec ses élèves sur la Géoula. Alors là, il y a ici une citation. Mi gadol lanu mi bechol adorot acharonim rabbeinu agra kedosh Israël, qui est plus grand que notre maître le Gaon de Vilna, le saint d'Israël, asher vidvarim chotzim leavot esh, qui dans ses paroles de feu, et itz betalmidav lalot l'eret Israël velasov kibbutz galuyot, a poussé ses élèves à monter en Eretz Israël et à s'occuper du rassemblement des exilés, Virba les Arez et Talmidav, Lachish et Ketz Amegoulé, et qui a encouragé ses élèves à précipiter la fin. Les Karev Ketzageoula, de rapprocher la délivrance à l'idée Yishuv Eretz Israël en s'installant en Eretz Israël. Kimat bechol yom, presque chaque jour, diber elenu rabenu, notre maître nous parlait, beretet, en tremblant, ou veitrakshut, et avec émotion. Ki betzion ou virushalayim ti epleta, car les rescapés seront à Sion et à Jérusalem. Velo yeleacher et amoed, et il ne faut pas perdre le temps. Mi yemalel ou mi eter et godel d'agato shel rabenu, qui pourrait représenter l'angoisse de notre maître, la grande angoisse de notre maître, bedabro elenu, lorsqu'il nous disait, hadevarim ha'ele, ces choses-là. Beruach kocho, avec son esprit saint, ou vidmaot be'enav, et les larmes aux yeux. C'est-à-dire que le Gaon de Vilna disait qu'il y a un moment où il faut faire vite. C'est-à-dire, l'exil, ça peut être très long. Mais il y a un moment où il faut sortir, il faut se dépêcher. Parce que ça risque d'aller mal. D'accord ? Donc, ce qui ressort des différentes sources qu'on a amenées maintenant, c'est qu'il y a une règle de l'histoire qui rend la Shoah possible, mais on peut y échapper. La preuve, c'est l'histoire de Pourim. Ils ont l'histoire de Pourim. La Shoah a été possible, mais elle a été évitée. Il y a eu un moment d'unité entre les Juifs qui fait que ça a empêché la catastrophe. Oui. S'il y a eu la Shoah de Pourim, alors on ne serait pas là pour en parler. N'est-ce pas? Et Baruch HaShem, elle n'a pas eu lieu. Et puis, malheureusement, il y a eu une autre Shoah. Et vous voyez que c'est le même processus. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire assez surprenante. Vous savez qu'à Paris, pendant la Shoah, il y avait des Juifs originaires d'Iran. Des originaires d'Iran. Oui, des personnes. Ça existe, hein. Bon. Et ils faisaient là-bas, je sais pas, ils mangeaient des baguettes, ils faisaient la prière, enfin, ils faisaient beaucoup de choses. Et pour échapper à la persécution raciale, ils ont une idée comme ça, de dire, nous ne sommes pas des Juifs, nous sommes des Aryens. C'est-à-dire qu'ils ont présenté ça, que oui, nous ne sommes pas de race juive, nous sommes de religion juive, nous ne sommes pas de race juive, et donc vous devez nous épargner. Alors les Allemands, qui étaient des gens très précis et très précis, quoi. Alors ils ont pris le dossier en main et ils ont commencé à étudier la chose. C'est arrivé jusqu'au séminaire racial suprême, enfin un truc comme ça. Ils avaient des institutions, les nazis, dans lesquelles ils étudiaient les choses des races. Non, pas du tout. Non, c'était un institut racial en Allemagne. C'est arrivé jusqu'à Adolf Eichmann. Parce que les Allemands étaient bien embêtés. Alors, c'est des Juifs, c'est pas des Juifs, ils sont de race juive, pas de race juive, etc. Et finalement, c'est Eichmann qui a tranché en disant « Le cas est déjà connu, ça fait partie du dossier Esther, ça a déjà été étudié. » C'est-à-dire, si les Juifs, à l'époque de Haman, en Perse, étaient sous le coup du décret, ça veut donc dire que ce sont des Juifs. D'accord ? Vous voyez qu'ils se situaient dans la lignée directe de Haman. Ils s'identifiaient, les nazis, ils s'identifiaient avec nos persécuteurs. Voilà. Comment ? Oui, alors évidemment, il y a des tas d'images de ce genre qui sont revenues, etc. Donc, ce que je voulais vous dire simplement, c'est que la Shoah, et ça, c'est ce qu'il faudrait retenir. Ça fait partie d'une possibilité. Maintenant, je voudrais rentrer un petit peu plus en détail. Il nous reste quelques minutes et c'est très important. La Shoah a été perpétrée par une nation d'origine chrétienne, les Allemands. De manière générale, ça a été orchestré par l'ensemble de l'Europe. C'est-à-dire, l'ensemble de l'Europe a participé plus ou moins à cette histoire. Et on peut se demander, mais est-ce qu'il y aurait une raison à cela ? Ça s'est passé dans une Europe déchristianisée déjà, c'est-à-dire une Europe d'origine chrétienne, mais qui n'était plus pratiquante, et qui en grande partie était sécularisée. Alors, d'où ça vient cette histoire ? Il y a dans la Torah l'histoire de Esav, qui lui veut tuer son frère, Yaakov. Mais il ne le fait pas. Pourquoi est-ce qu'il ne tue pas Yaakov ? Il dit, Yikrevu yeme evelavi ve'aharga et Yaakov achi. Le deuil de mon père est proche, et alors je tuerai Yaakov, mon frère. Alors, il y a ici un petit problème, c'est que quand il a sa déclaration, quand il déclare avoir l'intention de tuer Yaakov, il se donne deux empêchements de le faire. D'abord, tant que papa est vivant, on ne peut pas faire ça. Et à part ça, c'est mon frère. Je voudrais bien le tuer, mais papa est vivant, on a le même père, et puis c'est mon frère. D'une certaine manière, ça ressemble un peu à ce que le christianisme a fait au judaïsme pendant très longtemps. Il y a une accumulation de haine, mais d'un autre côté, on reconnaît que les juifs ont une origine commune avec le christianisme, ils ont la même Bible, et à part ça, on ne peut quand même pas tuer ceux qui nous ont donné la naissance. D'accord ? Et donc, ils ont inventé une théologie assez surprenante, la théologie du témoignage. C'est-à-dire, les juifs doivent continuer à exister en tant que peuple témoin et humilié. L'humiliation permanente des juifs, c'est la preuve de la véracité du christianisme. Donc, il est important que les juifs existent. Donc, la Shoah est impossible. C'est-à-dire, la Shoah, on voudrait bien la faire, mais ce n'est pas possible parce qu'il y a des raisons théologiques qui empêchent. On voit bien que les raisons théologiques ont été inventées par des raisons de fraternité. Donc, de temps en temps, il y a un pogrom par-ci, l'inquisition par-là, mais on ne peut pas vraiment les éliminer. Mais à un moment de l'histoire, l'Europe est devenue laïque. Donc, elle a hérité de la haine du juif développée par le christianisme, moins l'empêchement théologique. Le barrage théologique a été enlevé. Et donc la Shoah est devenue possible. Intéressant de voir que les premiers à parler en termes proches de l'idée de la Shoah étaient les fondateurs de l'Europe laïque. Par exemple, Voltaire, un des fondateurs, qui dit qu'il faut donner la liberté et l'égalité et la fraternité à tous les Européens, sauf les Juifs. Parce que les Juifs ne sont pas curables. Et puis, il y avait le fondateur du nationalisme allemand à l'époque moderne, Johann Fichte, qui a dit, les Juifs, il n'y a qu'une chose à leur faire, c'est leur couper à tous la tête et leur mettre une autre tête dans laquelle il n'y aurait plus aucune idée juive. Vous voyez, une préfiguration de la Shoah très forte, à moins de les renvoyer dans le désert d'où ils sont venus, disait-il. Donc vous voyez que dès que l'Europe devient laïque, elle devient holocaustable. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a eu... maintenant, si on fait un peu de psychanalyse, on recherche dans le subconscient collectif de l'Europe, on peut se demander si l'Europe n'a pas fait exprès de devenir laïque pour pouvoir faire la Shoah. Oui. D'ailleurs, remarquez une chose intéressante, c'est qu'on voit... Quoi ? Ouais. Oui, c'est tout à fait logique. C'est-à-dire, j'ai un projet, mais j'ai un empêchement. Je vais supprimer l'empêchement. Choisir, oui.
Pour créer leur État d'Israël.
Ça n'est pas du tout la même chose, c'est n'importe quoi, mais non. Mais non, étant donné que l'État d'Israël de toute manière était prévu, que ça, on avait commencé le travail, donc on aurait très bien pu faire l'État d'Israël sans la Shoah. C'est vrai que ça a accéléré, mais ce n'est pas parce qu'on le voulait. Ouais. Au contraire, s'il n'y avait pas eu la Shoah, l'État d'Israël aurait été beaucoup plus puissant. Disons comme ça, quand je me détache de Dieu, c'est-à-dire je me détache de la religion, c'est qu'il y a un projet, il y a une pulsion cachée qui veut se manifester. Alors cette pulsion cachée, elle peut être d'ordre sexuel, elle peut être d'ordre homicide. Voilà. Voilà, mais cette pulsion était empêchée de manifestation. Je voudrais ramener ici un exemple biblique. Esav avait un fils qui s'appelait Eliphaz. D'après le Midrash, Eliphaz est parti à la poursuite de Yaakov, envoyé par son père pour tuer Yaakov. Mais arrivé chez Yaakov, Eliphaz a dit « Je ne peux pas te tuer, parce que j'ai étudié chez toi la Torah ». Vous voyez ce que ça veut dire ? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a un héritage biblique qui est passé chez Eliphaz, il ne peut pas tuer Yaakov. Mais alors il s'est contenté de lui prendre son argent, c'est-à-dire de l'humilier. Vous voyez, c'est le mythe de l'humiliation. Et alors, après, Eliphaz a eu un fils. Ce fils s'appelait Amalek. Lui, il hérite de la haine de Esav pour Yaakov, mais il ne peut pas, mais il n'a plus les sentiments de proximité qui l'empêchent de tuer. Et donc, il peut tenter la solution finale. Donc, on voit que le schéma existe déjà. Maintenant, quand j'ai dit, on ne peut penser que dans l'analyse du subconscient collectif, il y a cette idée-là. Ça ne veut pas dire forcément que c'est comme ça, mais on ne peut pas être frappé par le fait que les fondateurs même de l'Europe antichrétienne ont déjà préfiguré la Shoah. Oui, c'est ça. Oui. Oui, mais justement, ce progrès a engendré la Shoah, comme par hasard. Je sais pas, la Shoah, je crois que c'est pas une bonne chose. Oui, effectivement. Donc, il y a des paradoxes. Il y a un penseur français, Milner, Jean-Claude Milner, qui a écrit un livre que toute la communauté bien pensante de France anathémise, qui s'appelle « Les penchants criminels de l'Europe démocratique ». Dans l'Europe démocratique, comment ? Ça met sous le kherem. Ouais. C'est-à-dire, il y aurait derrière le discours libéral, etc., il se cacherait quelque chose d'autre. Je n'ai pas dit que le progrès n'est pas une bonne chose. Je dis simplement qu'il faut être conscient des problèmes qui s'y attachent. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.